sur l'Antillie tardive, les premières dates qu'on a, c'est le témoignage de Gilda, donc dans le Dexilio Britanniae, au 5e siècle, où il parle d'une peste qui a sévi en Grande-Bretagne. Après, on n'est pas très sûr de la véracité, parce que les écrits de Gilda, en fait, il vise surtout à critiquer la société de sa période et à accabler un peu les bretons insulaires, sous-entendu, hein, pour leur péché. Donc au final, on ne sait pas trop s'il y a vraiment une épidémie à cette période-là. Et l'épidémie qui ressort des sources écrites à cette période, c'est l'épidémie de peste qui a sévi essentiellement au 6e et au 7e siècle, donc qu'on appelle la peste de Justinien, qui est a priori la première pandémie connue historiquement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant, de peste bubonique, donc qui est mieux connue notamment pour la peste noire du XIVe siècle.
Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la peste de Justinien ?
Parce que, en fait, l'épidémie s'est déclenchée en 541 à Pelésium, dans un comptoir romain oriental ou byzantin, si on préfère, et pendant le règne de l'empereur Justinien, donc a été un très très grand empereur romain oriental ou byzantin, et qui notamment avait entrepris de reconquérir une bonne partie de l'ancien empire romain d'Occident, donc il s'était réemparé contre les barbares de l'Afrique du Nord, de l'Italie. Il avait davantage d'ambitions, qui ont d'ailleurs été un petit peu stoppées par la survenue de cette épidémie-là.
Et elle s'est propagée de quel endroit à quel endroit, en gros, enfin, de ce qu'on en sait en tout cas.
Alors, de ce qu'on en sait, le premier témoignage qu'on en a priori, elle apparaît en 541 à Pelésium. Donc ça, c'est un comptoir égyptien qui appartenait encore donc en territoire romain oriental à cette période-là. Et elle gagne Byzance l'année suivante. Et petit à petit, elle va se répandre dans le monde méditerranéen, puis en Europe occidentale, au cours du 6e siècle. Donc on a par exemple, en contexte franc, chez les francs mérovingiens, on a le témoignage de Grégoire de Tours, qui décrit plusieurs récurrences de peste dans les décennies qui suivent. Elle gagne sans doute les îles britanniques dans les années qui suivent aussi. On n'a pas forcément de date très très assurée. On sait en tout cas qu'elle a fait, a priori, elle a pas mal sévi au 6e siècle. Et elle revient, elle se manifeste de nouveau au 7e siècle, où là on a pas mal de témoignages concernant la Grande-Bretagne, notamment dans les écrits de Bède le Vénérable, donc un des premiers historiens anglo-saxons connus.
Et alors, c'est la Grande-Bretagne, mais est-ce qu'en général, ça veut dire que la Bretagne est touchée aussi, l'Armorique ou pas ?
Alors, pour la Bretagne armoricaine, on n'en sait en fait rien. Faute de sources écrites qui en parlent, mais en toute logique, oui, vu que les Bretons insulaires sont touchés, les Anglo-Saxons sont touchés, les Francs mérovingiens sont touchés, il n'y a aucune raison que les Bretons armoricains y aient échappé. On a éventuellement le seul témoignage, mais qui est quand même plus tardif, dans la vie de Saint-Guénolé, qui a été donc rédigée au 9e siècle, où Gourdisthène, la géographe de Saint-Guénolé, fait partir Fracan, donc le père de Saint-Guénolé, aurait quitté le Cornwall actuel, la Grande-Bretagne, du fait de l'épidémie de peste pour passer en Armorique. Voilà. Après, il reprend beaucoup le texte de Gilda. Donc c'est pas vraiment un témoignage qui est très très fiable, et puis en plus c'est écrit plusieurs siècles après les faits.
Donc il y avait de la peste régulièrement en fait, elle revenait cycliquement, ou elle partait jamais vraiment
Sur cette période-là, ouais, c'est cyclique, ça se répand relativement progressivement. Faut dire aussi que les contacts humains sont quand même moins denses et moins réguliers qu'ils ne le sont aujourd'hui, bien entendu. Donc ça, c'est un phénomène qui s'écoule sur plusieurs années, plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles.
Et alors la peste en question, donc c'est la peste bubonique, mais donc faut peut-être rappeler déjà qu'est-ce que c'est comme type de maladie. C'est pas un virus déjà pour commencer. Et puis qu'est-ce qu'on en sait maintenant, mais qu'est-ce qu'on en savait surtout à l'époque, quoi.
Alors ce qu'on en sait maintenant en fait, c'est que donc cette peste de Justinien a été causée par Yersinia pestis, donc qui est une bactérie, et plus particulièrement par le biotype orientalis, et qui a lui-même été à l'origine des trois grandes pandémies de peste bubonique, dont celle ultérieure du XIVe siècle et l'autre du XVIIIe, si je ne m'abuse, la troisième et dernière en date. Elle se manifeste sous deux formes. A priori, Là, ce qu'on désigne comme peste bubonique, en fait, c'est lié à la transmission de la bactérie par une puce du rat, en fait. Et donc, c'est le rat noir qui va servir de vecteur, et le rat noir et sa puce. Et donc, les puces, quand les rats meurent, vont quitter les cadavres des rats et vont se mettre à mordre les hommes. Et c'est là qu'elles transmettent la bactérie. Les hommes s'infectent. Et c'est là, en fait, on parle de peste bubonique parce qu'il y a une sorte de bubon, un phlegmon qui se forme au niveau du système ganglionnaire, souvent à l'aisselle ou au niveau du cou. C'est ça qui a beaucoup impressionné les contemporains, que ce soit à l'Antiquité tardive ou au Moyen-Âge ou plus tard pour la peste du XIVe siècle.
Et on en mourait systématiquement ou pas forcément?
Non, c'était pas systématiquement mortel, mais une bonne partie des gens en mouraient.
Donc ça, on le sait, on le sait par la description des symptômes, je suppose, mais on peut le retrouver, par exemple, dans l'ADN ou même dans des traces de squelette, éventuellement, ce type de maladie?
Alors, il y a des techniques de biologie moléculaire qui permettent justement de retrouver la trace de Yersinia pestis sur des squelettes des populations anciennes. Et concernant la peste de Justinien, c'est très intéressant parce qu'il y a eu pendant plusieurs décennies, en fait, il y avait une controverse où certains historiens pensaient que c'était pas Yersinia pestis qui était à l'origine de cette épidémie-là, malgré les témoignages quand même relativement éloquents des contemporains. Quand on lit Grégoire de Tours ou Bède, c'est quand même assez typique comme description. Mais par contre, la biologie moléculaire a du coup permis de confirmer ça. D'abord, il y a quelques années de ça, sur des squelettes dans une nécropole du Haut Moyen-Âge en Bavière. Donc c'est doublement intéressant parce que ça faisait pas partie des zones qui étaient documentées historiquement pour la peste de Justinien. Donc on voit que ça a dépassé les frontières du monde romain ou de l'ancien monde romain, strictement parlé. Et ça s'est répandu plus récemment. Il y a eu une étude européenne qui a montré qu'il y avait eu des atteintes aussi en contexte anglo-saxon, en contexte gaulois. Et c'est là aussi un gros potentiel finalement pour savoir est-ce que les Bretons armoricains ont bien été victimes. On pourrait tout à fait mener ce genre de recherche sur, par exemple, les squelettes qui ont été retrouvés à Saint-Urnel, à côté de Plumeur, qui sont au musée de la préhistoire finistérienne. Qui, comme son nom ne l'indique pas, a aussi des collections du Haut Moyen-Âge breton. Et sur ces squelettes-là, par exemple, on pourrait retrouver des traces de Yersinia pestis, peut-être.
Ah oui, ça serait des traces, mais sous quelle forme? Visibles ou d'ADN?
Ça va être des traces d'ADN, de molécules. En fait, c'est vraiment des techniques de biologie moléculaire, de la PCR assez fines, assez élaborées, pour permettre de détecter des traces de la bactérie, en fait. Notamment au niveau dentaire, on arrive à retrouver des petites choses comme ça. Après, il y a un gros potentiel de recherche, et notamment ce qui a été ciblé sur ces différentes études-là, c'est qu'ils allaient rechercher la bactérie là où ils trouvaient des personnes qui avaient été enterrées dans des tombes doubles ou multiples. Donc en gros, quand il y avait plusieurs squelettes dans une tombe, on s'est dit, bon bah voilà, ces gens-là sont peut-être morts à peu de temps d'intervalle, et peut-être des causes d'une maladie infectieuse, et pourquoi pas d'une épidémie. Et donc c'est sur ce type d'inhumation qu'on a pu retrouver des traces de Yersinia pestis dans des contextes du Haut Moyen-Âge.
Et alors cette peste de Justinien, donc, qui s'est donc étalée sur presque deux siècles, enfin, est-ce qu'on a une idée de son impact en termes de nombre de morts, déjà, enfin...
Alors en termes de nombre de morts, on n'en a pas réellement, parce qu'on est beaucoup moins bien documenté pour cette période-là que pour le XIVe siècle, par exemple, où on estime qu'il y a entre un tiers et la moitié de la population européenne qui est passée. Maintenant, en termes, on va dire, géopolitiques pour la période, ça a sans doute créé pas mal de bouleversements. Au niveau, on va dire, de l'Empire romain d'Orient, ça a notamment probablement beaucoup affaibli les forces militaires de cet empire, et favoriser au 7e siècle l'expansion musulmane face à des Byzantins, des Romains orientaux qui étaient très affaiblis de ce fait-là. Maintenant, en contexte plus par chez nous, chez les Bretons, on a longtemps pensé que les Anglo-Saxons en avaient moins souffert par rapport aux Bretons insulaires et que ça avait favorisé la conquête anglo-saxonne de l'île de Bretagne. C'est à nuancer du fait que on a bien trouvé des traces chez les Anglo-Saxons. Après, est-ce qu'il y a eu un impact plus important? C'est vrai que c'est quand même au 6e et au 7e siècle qu'on voit que la tendance s'inverse, que les royaumes bretons insulaires, petit à petit, vont tomber les uns après les autres, à quelques exceptions près, le Pays de Galles, Cornwall, etc., face aux anglo-saxons qui sont un pouvoir émergent à ce moment-là. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que jusqu'à peu près au milieu du VIe siècle, il y a un réseau commercial qui vient de Méditerranée, de la Méditerranée même orientale et d'Afrique du Nord, et qui permet des échanges de denrées de luxe, du vin, de l'huile d'olive, des céramiques, du verre, via des comptoirs aussi qui sont au Portugal et qui vont alimenter en fait les forteresses, les forteresses et les habitats aristocratiques des Bretons insulaires. Par exemple, la forteresse de Tintagel et encore d'autres sites très très importants. Donc c'est un commerce qui était vraiment florissant. Et ce commerce-là périclite complètement à peu près au milieu du VIe siècle. Alors déjà, c'est pas impossible que ce soit les navires qui venaient de Méditerranée via le Portugal qui apportaient la peste de Justinien chez les Bretons insulaires. Et d'autre part, ça a dû affaiblir l'intérêt de ce courant commercial. Et de ce fait-là, les souverains bretons qui disposaient quand même de richesses à redistribuer à leurs guerriers, etc., ont sans doute beaucoup perdu en puissance à cette période-là. On sait aussi que la peste, a priori, bon, c'est dans des annales un petit peu plus tardives, mais a fait des victimes chez des chefs bretons, notamment des chefs bretons assez puissants, comme Maelgun, qui était le roi du Gwynedd au VIe siècle.
Ok, et après, donc, elle s'est, entre guillemets, interrompue, la peste. Enfin, c'est... Après, au 8e siècle, ça, c'est un peu... il y a eu une accalmie, c'est ça, non?
Ouais. On n'en a plus trop de traces. Je crois que les dernières récurrences de peste au niveau de la peste de Justinien, c'est au début du 8e siècle, et après, ça disparaît. On ne sait pas trop pourquoi. Après, il y a aussi sûrement d'autres évolutions en termes de climat ou autres qui ont fait que les facteurs causaux circulaient moins, que on a récupéré un petit peu. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est de voir d'où est-ce que est partie cette peste de Justinien. Parce que c'est très probablement lié à un événement climatique. En 536, il y a eu une grosse éruption volcanique et qui a mis des cendres en suspension dans l'atmosphère terrestre et qui a occasionné donc une sorte de mini-période glaciaire et avec des années de famine. Donc les populations déjà ont été affaiblies dans ces années-là. Et a priori, ça a favorisé aussi le fait que les rongeurs, alors je ne sais plus quel rongeur exactement, mais au Moyen-Orient, en fait, il y a des réservoirs naturels de peste chez des rongeurs qui, en fait, sont tout le temps plus ou moins affectés à Yersinia pestis. Et à certaines occasions, donc ce type d'événement, en fait, ils vont se promener un petit peu plus loin que d'habitude pour trouver de la nourriture parce que ils trouvent plus suffisamment à manger autour de leur terrier. Et c'est là qu'ils peuvent rentrer en contact avec des humains et leur refiler, ou avec des rats d'ailleurs, et leur refiler le bacille de la peste via la puce. Et petit à petit, c'est sans doute comme ça que ça s'est propagé initialement. Donc c'est intéressant à mettre un petit peu en exergue avec ce qui nous arrive actuellement, où on parle quand même des conséquences qu'il peut y avoir à partir des bouleversements climatiques, des animaux qui sont les hôtes de virus ou de bactéries qui peuvent représenter un péril pour l'homme, etc.